Merci à vous d'écouter Europe 1, il est 19h.
C'est parti pour un mois de football. L'Euro commence ce soir. Italie-Turquie à 21h. Nous serons en direct avec notre envoyé spécial dès le début de ce journal.
Un match qui sera aussi un événement pour Stéphanie Frappard. La Française a été désignée quatrième arbitre. C'est une première dans un championnat d'Europe.
Le procès d'un féminicide emblématique à Bastia. L'ex-compagnon de Julie Douib assume le meurtre mais nie toute préméditation.
En Algérie, des élections législatives sous haute tension. Le pouvoir en place cherche une nouvelle légitimité. Mais les Algériens ne se font plus beaucoup d'illusions.
Roland Garros, qualification du grec Tsitsipas pour la finale. On attend maintenant le duel Nadal-Djokovic.
La météo Anissa Haddadi, journée estivale demain, presque pour tout le monde.
Oui, c'est au bord de la Manche, Isabelle, de la Bretagne aux Hauts-de-France, en passant par la Normandie, que le ciel sera un petit peu plus couvert, pas de pluie, mais de la grisaille et des températures plus fraîches. Ailleurs, c'est l'été, un soleil radieux avec des températures qui s'envolent demain sur la moitié sud.
Europe 1, écoutez le monde changer.
Allez, c'est parti pour un mois de football, un championnat d'Europe hors norme imaginé par Michel Platini lorsqu'il était encore président de l'UEFA. Imaginez un peu, des matchs semés un peu partout sur le continent. La compétition va se dérouler dans 11 pays différents.
Et honneur aux Italiens ce soir qui affrontent la Turquie en match d'ouverture à Rome. Simon Rubin, vous êtes notre envoyé spécial. Qui dit match d'ouverture dit cérémonie d'ouverture. Donnez-nous le programme de la soirée, Simon.
Eh bien, qui dit Covid dit forcément cérémonie raccourcie. Alors, on aura de la musique avec notamment Andrea Bocelli qui va venir chanter, idole italienne évidemment. On aura des chorégraphies à la fois sur la pelouse, sur le toit du stade. La patrouille de l'armée de l'air italienne va sillonner le ciel de Rome également. Et puis une grande nouveauté, un concert virtuel du chanteur de U2 Bono qui sera alors là virtuellement. Je vous cite quand même le programme de l'UEFA parce que ça fait rêver. Des champs d'énergie seront créés à partir de millions de particules de lumière et Bono sera projeté sur la scène. Alors, est-ce que ça préfigure l'avenir des cérémonies de ce genre ou est-ce que c'est un accessoire dispensable? On verra. En tout cas, dans les tribunes, 16 000 personnes. Et contrairement, vous vous souvenez peut-être des images au dernier match des Bleus au Stade de France, là, le public est très dispersé dans toute l'enceinte. Voilà, le décor est planté. On attend les joueurs pour l'échauffement.
Merci beaucoup, Simon Rubin. Vous avez de la chance de vivre ça en direct. Envoyé spécial à Rome, Turquie-Italie. Le coup d'envoi, c'est à 21h. C'est un match que l'on va suivre en direct sur Europe 1. Vous savez que c'est une soirée, un spécial championnat d'Europe dès 19h15, hein, ça commence tout à l'heure avec notre grand débat. Et puis bien sûr, à partir de 20h, on va prolonger toute la soirée pour cet événement avec effectivement ce match d'ouverture.
Et ce match, justement, sera aussi l'occasion de saluer une grande première dans cet Euro. Le quatrième arbitre, celui, vous savez, appelé à remplacer l'arbitre titulaire en cas de blessure, c'est déjà arrivé hein, dans un match de foot. Et bien ce quatrième arbitre ce soir, ce sera une femme. La Française Stéphanie Frappard y voit beaucoup plus qu'un symbole.
Ça veut dire que l'arbitrage est reconnu déjà, l'arbitrage français est reconnu, et que ça veut dire que voilà, on a des beaux parcours et qu'on montre que voilà, il n'y a pas que le foot français qui est au haut de l'affiche, mais aussi l'arbitrage. Donc c'est vrai que c'est une belle reconnaissance pour l'ensemble du football français. Pour moi, c'est une super expérience, une belle étape pour l'avenir. Et je le prends vraiment comme une vraie belle expérience pour moi.
Voilà, l'arbitre Stéphanie Frappard au micro européen de Julien Froment.
Et puis, cette information sur le foot, mais là, côté droit télé, c'est un véritable coup de tonnerre. Hein, dans ces droits télé, Amazon diffusera l'essentiel de la Ligue 1 jusqu'en 2024. Ça n'a pas du tout plu à Canal+, qui annonce ce soir qu'il se retire de la Ligue 1. Il ne diffusera pas la saison 2021-2022.
Effectivement, c'est un coup de tonnerre dans le foot. 19h04, au Mali, on a appris ce soir que l'armée française avait abattu le responsable de l'enlèvement et de l'assassinat des journalistes de RFI.
Oui, nos deux confrères avaient été enlevés puis tués en novembre 2013. Et alors qu'Emmanuel Macron a annoncé son souhait de mettre un terme à l'opération Barkhane, eh bien ce sont ces mêmes militaires français qui ont permis l'identification et la neutralisation de ce groupe terroriste responsable de la mort des deux journalistes. Les précisions de la ministre de la Défense, Florence Parly.
Dans la journée du 5 juin, les militaires de Barkhane ont détecté la préparation d'une attaque terroriste à Aguelok, dans le nord du Mali. Cette opération a conduit à éliminer 4 terroristes. Parmi eux, Baye Ag Bakabo, cadre d'Al-Qaïda au Maghreb islamique et responsable du rapt de nos concitoyens. Cette opération est le reflet de la priorité de la France au Sahel. Combattre et faire tomber les chefs des groupes terroristes qui sévissent dans la région, ceux qui se réclament d'Al-Qaïda et de Daesh. Pour la sécurité des Français et pour la sécurité des Européens, nous resterons engagés au Sahel.
La ministre de la Défense, Florence Parly, avec Aude Leroy.
Aux assises de Haute-Corse, à Bastia, deuxième jour du procès de Bruno Garcia, accusé de féminicide sur son ex-compagne.
Oui, un procès hautement symbolique, hein, puisque la mort de Julie Dewib est à l'origine du Grenelle sur les violences conjugales. Il a permis également la libération de la parole. Et cet après-midi, son ex-compagnon a donc été interrogé pour la première fois à l'audience et il a maintenu sa version. Il n'a pas prémédité l'assassinat de son ex-compagne, Marion Debreuil.
Oui, Bruno Garcia ne parvient même pas à admettre qu'il a tiré sur Julie Dewib chez elle ce dimanche matin. Elle s'est jetée sur le canon de mon arme et ça a tiré. Pourquoi vous la suivez sur le balcon, lui demande la présidente. Je ne sais pas, la panique. Pourquoi vous tirez une deuxième fois? Pourquoi ne pas avoir prévenu les secours? Et toujours la même réponse de l'accusé. Je ne sais pas. Vous n'êtes pas monté pour la tuer, l'interroge l'avocate générale. Non, je ne suis pas monté pour ça. Je voulais discuter des petits, répond l'accusé. Vous êtes resté 3 minutes en tout dans l'appartement et vous nous dites que vous avez discuté. Julie est assise par terre et vous la menacez avec une arme. La magistrate mime le geste. Est-ce que vous croyez qu'une discussion loyale sur la garde des enfants est possible dans ces conditions? On ne parlait pas que de ça, répond Bruno Garcia. On parlait aussi de Sébastien. C'était lui la raison de nos disputes. Il s'agit du nouveau petit copain de Julie. Mais vous étiez séparés depuis 5 mois, monsieur Garcia, le reprend la magistrate. Quand vous avez tiré, vous avez pensé à quelque chose d'autre qu'à vous-même? À mes enfants, répond l'accusé. La magistrate s'étrangle. Vous nous dites que quand vous avez tiré sur la mère de vos enfants, c'est à vos enfants que vous avez pensé. Il répète, tout s'est passé très vite.
Marion Debreuil qui suit ce procès très symbolique, très fort en Haute-Corse pour Europe 1.
Europe 1, Isabelle Millet.
Dans un instant, la suite de votre journal et l'Algérie sous très haute tension à la veille des législatives.
Et puis Roland-Garros, Tsitsipas est en finale en attendant Nadal ou Djokovic.
A tout de suite.
Europe Soir, le 18-20. Isabelle Millet.
19h08, c'est la suite du journal de Christophe Lamarre sur Europe 1. Et en Algérie, c'est tout un pays qui est sous tension actuellement à la veille des élections législatives.
Les arrestations se multiplient. Hier soir, le régime a interpellé plusieurs opposants, dont l'une des figures du mouvement contestataire du Irak, dont le journaliste Khaled Darreni, ancien correspondant d'Europe 1. Une vague de répression qui inquiète. Mathieu Bock, vous êtes notre envoyé spécial sur place. On n'a pas l'impression que cette vague pourrait pousser les Algériens malgré tout à aller voter.
Oui, il y a bien quelques affiches de candidats collées sur les murs blancs de la ville, mais il y a eu très peu de meetings. Pendant cette campagne, les salles étaient parfois quasiment vides. Les habitants que j'ai rencontrés, comme Samir, un jeune chômeur de 24 ans, voient même ces élections comme un monde étranger au sien.
J'ai jamais voté, je voterai jamais. Pourquoi ? Parce qu'on ne connaît personne. On ne connaît personne, ni le député, ni le groupe. Il y a une Algérie qui marche avec un système et le peuple avec un autre système. Voilà, c'est deux choses différentes. Et c'est comme ça. C'est comme ça l'Algérie, ça a été depuis toujours et ça restera depuis. Inch'Allah, ça ne va pas rester longtemps comme ça, mais c'est ça.
Dans les quartiers plus populaires, en banlieue d'Alger, là aussi les élections ne semblent concerner personne. Ali accepte de nous lâcher quelques mots en français pour nous dire qu'il n'attend qu'une seule chose aujourd'hui.
Travail. Depuis 20 ans, depuis Bouteflika, rien que change. Il n'y a pas l'homme que je veux. Il n'y a pas l'homme que je veux. Parce qu'ils ne font rien, comme les autres.
Le principal enjeu de ces élections sera donc le taux de participation. Il y a 4 ans, lors des précédentes législatives, il avait été de 35%, mais il pourrait être plus bas cette fois-ci, puisque depuis, la déception de la reprise en main du Irak par le pouvoir est passée par là.
Mathieu Bock, envoyé spécial d'Europe 1 en Algérie, pour suivre ces élections, bien sûr.
La Chine poursuit son offensive contre les crypto-monnaies.
L'opération s'appelait Carte coupée. 1 millier de personnes soupçonnées d'appartenir au grand banditisme ont été interpellées. Pékin les accuse de se servir des crypto-monnaies comme le Bitcoin, par exemple, pour blanchir de l'argent sale. Ces arrestations entrent en réalité dans le cadre d'une vaste campagne de reprise en main des cryptos, le régime étant sur le point lui-même de lancer sa propre monnaie numérique.
Allez, on prend tout de suite la direction de Roland Garros.
Europe 1, radio officielle de Roland Garros.
Avec la qualification de Stefanos Tsitsipas en 5 manches face à Alexander Zverev, ça, c'était la première demi-finale. Il reste la deuxième et forcément la dernière. Elle oppose en ce moment Rafael Nadal à Novak Djokovic, Axel May.
Oui, Rafael Nadal avec un t-shirt jaune fluo, Novak Djokovic en rouge. Le match vient à l'instant de commencer. C'est Nadal qui a remporté la mise en jeu lorsqu'il y a du tirage au sort et qui a donc servi pour la première fois 15-15. Mais là, le match, je vous le disais, vient à l'instant de commencer. Le public a crié Rafa, Rafa. On a moins entendu de Nolé le surnom de Djokovic. Le vainqueur effectivement rencontrera Tsitsipas. Et quand même, je veux vous dire qu'on a vu Stefanos Tsitsipas en larmes. à l'issue de son match remporté en 5-7 et 3h37 face à Sacha Zverev, l'Allemand. Il a dit « Je donne plaisir à la Grèce, je représente la Grèce » et il y avait la fierté de celui qui gagne pour un peuple dans les larmes de Tsitsipas qui atteint donc pour la première fois la finale de Roland-Garros en attendant donc Nadal Djokovic, 30-15 sur le service de Nadal pour l'Espagnol.
Axel May en direct de Roland-Garros.
Europe 1,
radio officielle de Roland-Garros.
Et c'était le journal de Christophe Lamarre. Merci beaucoup Christophe.